Il me semble que les éthiques environnementales anglo-saxonnes ont bien sûr décentré l'éthique, ont surtout dénoncé le dualisme nature-culture qu'on trouvait dans l'existentialisme, dans les philosophies de la liberté, qui sous-tendent encore les théories politiques actuelles. Cette philosophie de la liberté qui pense l'homme comme un empire dans un empire et la nature comme un décor de l'histoire et un tremplin pour un homme qui est pensé comme agent individuel, agent moral individuel, défini justement par le projet. Et bien donc, les éthiques environnementales ont bien montré l'insuffisance de cette base théorique, laquelle effectivement ne permet de prendre la mesure des désastres écologiques que justement quand il s'agit, que parce que ces désastres écologiques menacent nos styles de vie. Mais justement, l'écologie n'est qu'extérieure, toujours secondarisée dans les philosophies de la liberté. Et de leur côté, même si les éthiques environnementales anglo-saxonnes ont essayé donc de décentrer l'éthique et aussi c'est le cas du grand philosophe norvégien Hannes, de fonder une politique sur des normes environnementales tout à fait contraignantes, eh bien, ces normes étaient encore extérieures et elles ne convainquent que les écologistes. Je prends par exemple l'acceptation de la valeur intrinsèque de la nature, l'acceptation de l'égalité des formes de vie, la réduction de la natalité, qui sont des choses qui peuvent nous parler, mais qui ne convainquent pas tout le monde. Alors justement, pour éviter peut-être cette reconduction du dualisme nature-culture, eh bien moi j'ai essayé de faire de l'écologie un chapitre d'une philosophie de l'existence. Autrement dit, je vais partir d'une philosophie de la corporéité. La corporéité, c'est plus que le fait d'avoir un corps et d'être mortel. C'est vraiment une philosophie qui pense ce qui vient avant la conscience, ce qui rabat la prétention de la conscience à conférer un sens à toute chose. Et effectivement, le corps, penser la corporéité du sujet, c'est penser l'humain dans ses conditions biologiques, sociales, environnementales, où justement l'écologie est un chapitre de cette philosophie du corps. Et moi, justement, je vais insister sur ce que j'appelle les nourritures. Alors les nourritures, dans son pluriel, c'est l'alimentation qui va jouer un rôle paradigmatique dans cette phénoménologie du sentir, mais c'est plus fondamentalement tout ce dont je vis, qui est à la fois naturel et culturel, l'air, l'eau, les aliments, les écosystèmes, le travail, et qui répond à mes besoins, mais qui aussi me contente, mais qui aussi nourrit ma vie, donne une saveur et un sens à mon existence. Et les nourritures, ce pluriel-là, insiste non seulement sur justement tout ce dont je vis, donc qui est naturel et culturel, mais aussi sur la dimension de plaisir, qui est souvent un petit peu oubliée quand il s'agit de s'interroger sur l'écologie, mais aussi sur la condition humaine, puisque la philosophie de la corporéité comporte un chapitre sur la finitude, qui est très important, justement aussi quand on parle d'écologie, mais là je vais plutôt insister sur cette dimension de plaisir dans une philosophie du vivre d'eux, et la première partie de mon travail va consister à vous développer justement cette philosophie des nourritures et du vivre d'eux qui va articuler l'écologie à donc une conception plus globale qui rompt avec vraiment les philosophies de la liberté, lesquelles reconduisent tout un tas de dualisme nature-culture, mais aussi corps-raison, mais aussi esprit-corps. Raison, émotion, corps, etc. Et on va voir avec l'exemple de l'alimentation à quel point cela fait surgir un sujet qui n'est jamais seul, qui même quand il n'y a personne à sa table, eh bien, il est toujours en contact avec les autres humains et les autres vivants en son sein. Et dans une deuxième partie, je tirerai les conséquences politiques de cette fondation, de cette philosophie du sujet qui vit toujours d'eux, qui est corporelle et qui est toujours relationnelle. Et donc, on verra que les finalités du politique ne peuvent plus être seulement l'égalité, la réduction des inégalités la conciliation des libertés individuelles, mais que justement s'invite à la table des négociations le rapport aux générations futures, le rapport aux autres vivants, aux animaux en particulier, et la protection de la biosphère, mais non pas comme des normes externes, mais parce qu'elles sont déjà, elles font partie du sujet que je vais décrire. Donc voilà, en fait, dans ce travail, si on le comparait à un travail architecture, on pourrait dire que la fondation, ce sera la première partie, cette philosophie première qui épouse la méthode phénoménologique, qui va décrire des structures de l'existence en partant du corps et en dégageant quelque chose qui a une dimension universelle, mais c'est un universel en contexte qui pourra être repris, interprété, mais quand même, et qui va faire surgir trois, quatre, je vais en dégager que quatre ici, existentiaux, structures de l'existence, qui vont rafraîchir le sens justement peut-être de l'éthique et de la la justice, et l'alimentation sera vraiment la partie plus importante. La deuxième partie de la maison, le pilier, ce sera le contrat social, puisque je reprends ce cadre normatif, mais justement en énonçant des critères nouveaux qui s'ajoutent aux finalités classiquement dévolues à l'État, réduction des inégalités et sécurité. Il y aura, on verrait, comment on fait entrer de l'intérieur la question écologique, la question animale, et puis le toit, mais là j'en parlerai peu, sauf en conclusion, c'est le comment. Quelles sont les modifications institutionnelles, mais aussi culturelles, pouvant permettre de rendre possible ça. Donc, plutôt l'idée de la reconstruction de la démocratie, mais comme je dis, je n'aurai pas le temps de le développer trop. Alors, première partie, donc, la fondation, quelles structures de l'existence sont révélées par cette phénoménologie des nourritures, cette description du corps. Eh bien, je pourrais dire, je vais commencer par moi ce que j'ai appelé le cogito gourmand. Alors, c'est pas seulement une fantaisie, on verra. On pourrait dire que tout ce que je développe dans ce livre se tient en une phrase, vivre, c'est vivre d'eux. Ça a l'air très simple, ça veut dire que la transitivité de ce verbe, vivre, souligne le fait que l'existence est pensée dans sa matérialité, et que nous ne sommes pas hors sol, et que plus profondément, le monde que nous découvrons, le monde qui n'est pas entièrement thématisable, il n'est pas seulement l'objet de ma représentation, ce que le mot aliment souligne, les aliments ne sont pas des représentations, je les incorpore, il y a quelque chose de plus riche. C'est très important de dire ça parce que ça souligne que le monde n'est pas seulement relatif à des outils, des ustensiles, contrairement à ce que pensait le philosophe Heidegger. Donc on a ici une réflexion sur un monde qui nous est éprouvé de manière ornée, qui convient à nos sens. Il y a cette excédent ou cette essence nourricière du monde qui n'est pas un ensemble de ressources. Quand on change le mot ressources, qu'on ne l'emploie pas, et qu'on emploie le mot nourriture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois que déjà, ça veut dire que on n'est pas dans une pensée de l'être dans le monde, comme si nous étions jetés là, dans une sorte de déréliction, mais on est dans un être avec le monde, avec les choses, et les sens, la sensation, qui n'est pas une faculté confuse, exprime justement, dans ses qualités secondes, dans la texture des choses, la couleur du ciel, la saveur des plats, exprime justement cet être avec le monde, cette complaisance que nous nous attendons d'abord à trouver avec les choses. Alors, en fait, on voit que quand on fait du plaisir, puisqu'il s'agit de cela, penser comme ce qui fait éclater, disait Lévinas, la structure élémentale du monde, ce qui souligne justement dans la texture des choses, la beauté, ce qui flatte les sens. Eh bien, quand on fait du plaisir une structure de l'existence, quand on prend au sérieux cela, et effectivement, c'est ce qui se passe quand on réfléchit à l'alimentation, puisque d'emblée, quand je mange, certes, c'est pour répondre à mes besoins, mais d'emblée, le besoin vire en plaisir, il y a cette indépendance dans la dépendance, les besoins ne sont pas seulement à penser de manière privative, comme des vides à remplir, mais il y a justement cette idée que vivre, c'est un jeu en dépit de la finalité, de l'attention, de l'instinct. Alors cela ne signifie pas qu'on fait l'impasse sur la privation et la privation extrême, qui est la faim, dont souffrent 865 millions de personnes dans le monde, et la malnutrition, 2 milliards de personnes dans le monde, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais d'emblée, ce qui est très important pour prendre de la distance par rapport aux philosophies de la liberté, c'est quand on fait du plaisir une structure de l'existence, eh bien, ça illustre le fait que la vie est une manière d'être qui dépasse le non-mourir, disait Ricoeur, qui soulignait l'importance du jeu chez les bébés animaux et les bébés humains, qui justement soulignent cet amour originaire de la vie. Et c'est important parce que les philosophies de la liberté, et je pense en particulier à Heidegger, ont interprété la mort, mais aussi la naissance, comme des marques soulignant comme des choses que je ne maîtrise pas, qui échappent à mon intentionnalité, à ma conscience, à ma maîtrise, et qui pour cela même soulignent la déréliction de l'homme, le caractère tragique originairement de l'homme, et contre cela, il faudra répondre par le projet, par la maîtrise, par une pensée justement où l'individu cherche à exister soi. Or au contraire, et Lévinas le souligne très bien dans un texte qui s'appelle Pouvoir et Origine, l'obsession de la maîtrise est liée à cette impasse sur la corporéité, à cette manière de voir justement ce qui échappe à mon intentionnalité comme négatif, et à cette survalorisation de la liberté hors sol et pensée comme projet, penser l'homme, penser la lumière de l'extériorité. Or ici il s'agit de penser l'homme d'abord dans sa réceptivité, et quoi de plus pour illustrer cette réceptivité que justement l'alimentation qui est incorporation et dont je vais souligner pas toutes les dimensions parce que j'en ai pas le temps, puisque l'alimentation c'est nutritif, c'est affectif, un rapport à la mémoire, au symbolique, à la culture, mais moi je vais surtout insister sur la dimension éthique et politique de l'acte de manger. Mais d'emblée, vous voyez, je crois que vraiment insister sur le plaisir, ce qui est rarement fait d'une certaine manière, hein, eh bien c'est changer le climat de la philosophie de la liberté, laquelle pense cette déréliction comme originaire, et moi plutôt je la pense comme seconde, liée aux conditions sociales et écologiques et économiques. Alors donc parler de cogito gourmand, donc dire qu'au commencement était la fin, FIM, mais aussi que d'emblée, justement, en raison de l'alliance entre les sens et l'esprit, la mémoire, eh bien on est toujours dans, ça dépasse tous les dualismes, c'est aussi insister sur le fait que le goût est centrale et que donc aussi l'esthétique est au cœur de l'éthique. Il y a vraiment un motif démoniste lié au plaisir qui doit être au cœur, entrer dans la justice. J'en parlerai aussi. Plus fondamentalement, on est là, j'ai dit que j'allais insister sur la dimension éthique et politique de l'acte de manger. En effet, dans cette philosophie du sentir, dont le paradigme est l'alimentation, il est clair que l'alimentation, manger est un dire. Manger dit certes le besoin, le désir, le respect de soi, mais c'est aussi incorporer le savoir et le savoir-faire des hommes passés, qui ont transmis telle ou telle tradition culinaire, et déterminer ce qui est mangé ou pas, hein. C'est aussi avoir un impact par mon mode de consommation sur le mode de vie des hommes vivant loin de chez moi, sur le mode de production de l'alimentation, sur l'agriculture, sur la distribution. La demande en produits animaliers, vous le savez, a un impact considérable au niveau environnemental et elle a un impact considérable sur les hommes vivant loin de chez nous et où il y a une production de céréales, mais ces céréales produites sont exportées pour le bétail américain et européen, ce qui veut dire que la demande en produits animaliers, qui est très forte aujourd'hui, est en partie, pas seulement totalement, mais en partie responsable de l'organisation de la distribution des nourritures et du fait que, justement, un certain nombre de personnes où il y a de production de céréales souffrent de faim et de malnutrition. Quand je mange, donc, en fait, je dis la place que j'accorde ou pas aux autres hommes, passés, présents et futurs, et à ceux qui vivent loin de chez moi ou à côté de chez moi. L'éthique n'est plus seulement... ne commence plus seulement avec la rencontre du visage d'autrui, comme chez Lévinas, puisqu'elle va englober les autres vivants et les autres hommes, même ceux qui ne sont pas encore nés, mais plus profondément, l'éthique change de sens. Elle n'est plus une discipline normative, disons le bien, le mal, elle est la place que j'accorde en mon sein à l'existence des autres, car c'est l'existence des autres, plus que leur liberté, qui me met en question. Enfin, manger... en particulier de l'alimentation carnée, c'est dire si j'accepte de faire couler le sang des bêtes pour me nourrir. Hein. Et à l'échelle de 7 milliards et demi d'individus, la réponse à une demande importante en produits animaliers est l'intensification de l'élevage déjà intensif, donc qui pose non seulement des problèmes moraux, mais des problèmes de justice. Je m'explique, le fait de contraindre les animaux de les élever au mépris de leurs normes éthologiques, du besoin des poules d'étendre leurs ailes, de pondre en dehors de la vue des autres, du besoin des cochons de fouiner le sol, eh bien, la construction de l'élevage comme une industrie au mépris des normes éthologiques des bêtes, lesquelles normes limitent mon droit d'user d'elle comme bon me semble, est un problème de justice, car cela pointe l'injustice de notre justice, cela pointe le fait que nous nous octroyons un droit absolu sur des bêtes dont les normes éthologiques, donc comme je disais, limitent de l'intérieur notre droit d'en user comme bon nous semble. Donc nous avons vraiment la question, la transformation de l'élevage en industrie n'est pas seulement un problème de cruauté, mais pose ce problème de justice, est un coup de projecteur aussi sur l'organisation du travail, dont les animaux ne sont pas les seules victimes, puisque vous le savez, les hommes qui, Jocelyne Porcher l'a très très bien montré, qui travaillent, les éleveurs, se voient privés du sens de cette activité qui était au départ une relation au vivant, avec des sentiments de lien qui sont coupés dans l'élevage industriel. Bon, donc voyez, au cœur de mon existence, c'est au cœur de mon existence que le droit des autres, leur droit à exister s'impose. Le sujet n'est jamais seul quand il mange, et c'est ça, vives invisibles que la phénoménologie des nourritures tente de rendre visible. Deuxième, alors et à partir du moment où je ne suis jamais seul, mais quand même quand je suis seul, alors ce n'est plus le sujet comme agent moral individuel qui sera le fondement de la reconstruction politique. J'en reparlerai dans la deuxième partie. Deuxième existentielle, ou deuxième structure de l'existence qui m'a interrogée, mais je vais aller assez vite pour aller à l'essentiel, c'est l'idée de la condition terrestre. Nous ne sommes pas hors sol, nous avons les pieds sur terre, nous avons une pesanteur, une localisation, nous occupons un espace et qu'il faut donc partager. Mais d'emblée, ça a été souligné, il y a une référence au milieu. Le milieu qui est à la fois naturel et culturel. Augustin Berck a effectivement de très belles phrases sur le fait que nous constituons le milieu par nos représentations et que celui-ci nous constitue. C'est ce qu'il appelle la trajection. Il y a une co-institution entre nous et le milieu. La notion de paysage qui a plusieurs portes d'entrée, elle-même brouille tous les dualismes, nature-culture. Mais là, moi, ce que je voudrais faire ressortir, c'est en m'inspirant aussi de la phénoménologie japonaise de Watsutsuji Tetsuro, qui nous est rendue accessible grâce à Augustin Berck, puisqu'hélas, nous ne parlons pas japonais, en tout cas pas moi, eh bien, hélas, mais eh bien, c'est l'idée que vivre, c'est pas seulement vivre d'eux, c'est pas seulement jouir, c'est vivre pour, car l'existence se déroule jamais seulement sur le plan individuel, mais c'est l'espace entre les individus, comme dans le japonais Aida, Aidea, qui est constitutif de l'humain, lequel ne désigne pas seulement l'individu, mais la personne et le monde. C'est-à-dire que on retrouve cette vie à un double niveau chez Hannah Arendt. Rappelez-vous, dans Human Condition, ce beau livre de la reconstruction, disait Ricoeur, qui écrit un petit peu aussi contre Heidegger, et elle dit à un moment, le monde commun, qui est commun aux générations passées, présentes et futures, qui contient les œuvres des hommes, on ajouterait, nous, la biodiversité, eh bien, ce monde m'accueille à ma naissance et survit à ma mort individuelle. Ma mort individuelle n'est pas la fin du monde, contrairement à ce que pense un peu Heidegger. Et Arendt dit, sans cette épaisseur, sans cette immortalité terrestre qui confère une épaisseur à ma vie individuelle et à la politique, il n'y a pas d'espace public. Il n'y a pas de politique au sens fort du terme. Ce qui veut dire que il faudra voir justement comment les générations passées, présentes et futures qui font partie de ma vie, eh bien, faudra donner une traduction à cela dans le politique, dans la théorie de la justice que je proposerai très vite. Donc c'est aussi, je rappelle, puisque j'ai cité Hannah Arendt, qu'elle elle-même citait ce texte un peu oublié et que Afessa dont il a beaucoup parlé il y a quelques mois, ou une année plutôt, c'est le texte de Jonathan Schell, quand il parle de la bombe atomique. La bombe atomique, l'holocauste nucléaire, ne serait pas une guerre comme les autres qui produit la mort des êtres individuels, voire des peuples, c'est la possibilité de l'extinction, c'est-à-dire d'empêcher de naître les autres hommes, les autres vivants, et la disparition du monde commun. Et il dit, Jonathan Schell, dans ce très beau texte, la bombe atomique fait que nous sommes tous les parents des générations futures, même quand nous n'avons pas d'enfants. Donc ça veut dire que les générations, nous sommes débordés. Le sujet que moi j'essaie de montrer, c'est un sujet dont la vie est débordée par celle des autres hommes et des autres vivants, en amont et en aval. Et cela se voit aussi par la naissance. La naissance qui a été souvent interprétée comme quelque chose de pas important, ou bien comme la marque finalement, j'ai pas choisi ma naissance, je suis dans la contingence, la facticité, donc vraiment que je maîtrise ma vie et que je donne existence à ce qui me ressemble. Eh bien, au contraire, on verra chez les phénoménologues qui m'intéressent, dont Ricoeur, eh bien, il montre que le fait d'être né installe l'intersubjectivité au cœur du sujet, puisque je ne me suis pas fait toute seule, forcément, mais que j'ai deux commencements, celui par mes actes qui répondent à ma volonté, mais quand je l'ai fait, je suis déjà plus vieille que moi-même, puisque je suis déjà née, posée. Je suis déjà née, et la naissance, c'est le trouble de plusieurs existences derrière la mienne, que Ricoeur appelle cette liaison ombilicale des vivants. Ce qui veut dire, il n'y a pas d'individu. Ça n'existe pas, c'est une fiction. L'individu, en même temps, comprend que Hobbes est dû abstraire l'homme de ses conditions écologiques, du genre, de tout cela, pour pouvoir accorder à Hitchman, à tout être humain, des droits. Il était nécessaire de fonder les droits de l'homme sur cette abstraction, afin de poser les fondements du libéralisme politique, de ce qui deviendra libéralisme politique, afin de penser les droits de l'homme. Mais ce faisant, par cet individualisme-là non péjoratif, cette fondation du sujet sur l'individu, on a perdu quelque chose que moi, justement, j'essaie de souligner grâce à cette réflexion sur la corporéité qui prend l'homme dans son épaisseur. Enfin, donc dernier existentiel, l'habitation. Habiter, donc j'ai parlé de l'espace qui n'a pas toujours été n'a pas eu reçu la même attention que le temps dans les philosophies de la liberté. Pourtant, nous ne sommes pas hors sol, nous avons besoin d'un chez-soi, et l'habitation est toujours une cohabitation avec les autres hommes et les autres vivants. Alors cela implique une réflexion sur la place de l'agriculture dans la culture, l'agriculture qui n'est pas seulement la production des aliments, qui est une relation au vivant, comportant un sentiment d'estime de soi. Donc là encore, c'est une réflexion sur la justice qui fait de l'organisation du travail une question politique fondamentale, puisque le travail est souvent détourné de son activité. J'en ai parlé avec l'élevage, mais c'est le cas aussi de l'agriculture hors sol. Mais là, ici, il y a une place de l'agriculture dans la culture, dans la composition des paysages. Michel Serres rappelle souvent que le paysage vient du mot pango, planquer des piquets. C'est un vocabulaire agraire qui souligne justement ce lien entre le paysage et le fait de composer les paysages. Alors donc plus aussi cette idée d'une justice comme partage des nourritures implique aussi que par rapport aux espèces, non pas là les animaux pris individuellement comme des subjectivités non représentationnelles mais pour lesquelles leur vie est aussi importante pour elles que la vôtre l'est pour vous, mais là par rapport à l'espèce, eh bien il est important de penser aussi la manière dont nous nous empiétons sur l'habitat des espèces dont nous nous octroyons un droit absolu et quand nous déforestons, nous pensons que la terre est vierge alors qu'elle est habitée par des communautés qui veulent vivre souveraines, qui veulent vivre sur leur territoire selon leurs normes propres, donc les animaux sauvages qui ne veulent pas vivre avec nous. Alors donc on le voit, et j'ai fini ma première partie rapidement, mais cette phénoménologie des nourritures en décrivant quelques structures de l'existence qui font surgir un sujet toujours relationnel, qui a le trouble de plusieurs existences derrière la sienne, eh bien on voit que cela change un petit peu la manière dont on pense l'éthique et la justice, et ici la philosophie a, je crois, court rôle d'être une création imaginaire qui justement modifie ou déplace ces significations d'ordinaire attribuées à l'éthique, à la politique, à ces mots-là, hein, et à la condition humaine. Et alors justement, donc moi, je vais en tirer des implications politiques dans un contrat social nouveau. Donc, je vais vous proposer donc un certain nombre de points. Alors, à partir du moment donc où on va reconstruire l'association civile sur un sujet qui n'est plus seulement défini par la liberté, qui n'est plus pensée abstraction faite de ses conditions d'existence et du lien intergénérationnel, à partir du moment où les générations futures, les générations passées, les animaux font partie de ma vie, alors bah, les finalités du politique ne sont plus les mêmes que chez Hobbes ou chez Rawls. Non seulement la protection de la biosphère, l'amélioration de la condition animale et le droit de chacun à avoir en quantité et en qualité accès aux nourritures et à en jouir, donc avec ce motif des démoniste, pas seulement survivre mais bien vivre, eh bien ça entre en politique, mais l'idée intéressante, je crois, c'est que ça ne s'impose pas de l'extérieur, comme chez Hannes, où ces normes un petit peu s'imposaient de l'extérieur de manière un petit peu tonitruante ou voilà. Mais en faisant bouger à sa base la conception de l'homme souvent tacite, qui sous-tend les théories politiques, eh bien là, on est amené à donc reformuler les principes du droit politique, c'est-à-dire que là, le contrat social énonce des critères, des nouvelles finalités du politique. Alors, je dois dire pourquoi je fais toujours référence, enfin, je fais référence à la théorie du contrat social, alors même que je vous ai développé, même brièvement, une phénoménologie qui fait penser que c'est naturellement que l'homme est, comme ça, a le trouble de plusieurs existences derrière la sienne. Eh bien, c'est parce que le contrat social, c'est un artificialisme, ça veut dire que nous ne sommes pas comme les abeilles, nous ne voyons pas tout de suite le bien commun, il faut l'instituer. Il faut l'instituer a posteriori, et c'est très profond, et ça c'est Hobbes qui nous l'enseigne, grand philosophe politique, c'est que justement, non seulement il dit l'intérêt bien compris ne suffit pas à fonder une paix durable, hein, puisque les hommes sont non seulement divisés entre eux, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'ils voudront demain ce qu'ils ont voulu aujourd'hui, mais surtout il y a cette idée que, et c'est très profond dans le positivisme de Hobbes, hein, et bien c'est l'idée que finalement, ce n'est pas à partir de valeurs surplombantes, finalement, ou de valeurs que d'aucuns considéraient comme universelles, qu'on va fonder le politique. Il faut instituer le bien commun, c'est-à-dire qu'il y a dans l'idée du contrat social cette idée aussi de redistribuer les cartes, de ce geste un petit peu reprendre les choses en main, mais de l'instituer, hein, c'est a posteriori, ce n'est pas a priori, et ce n'est pas fonder la politique sur des valeurs ou sur une morale. Alors ça, c'est très important chez ce que donc chaque théoricien du contrat social va nous apporter quelque chose. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que le contrat social ici est une norme, c'est pas un fait. C'est-à-dire que comme Hume, je pense que l'origine de l'État, c'est l'usurpation, ensuite l'habitude, c'est pas le consentement. Mais là, le contrat social est un critère, un cadre nous permettant de définir des finalités du politique que moi je déduis à partir de cette philosophie première que je vous ai énoncée très vite, avec l'idée que ces structures de l'existence ne sont pas des valeurs, hein. Ce n'est pas asseoir la politique sur des valeurs, mais sur cette dimension un petit peu universalisante que contiennent ces existentiaux, mais qui est un universel en contexte, qui va être soumis à l'appréciation de chaque société. Et c'est pour ça que ces critères restent assez généraux, hein. Dans la théorie de la justice comme partage des nourritures, où j'ai 9 principes, on voit par exemple, je parle de l'amélioration de la condition animale. Moi, antispéciste radical, je ne pose pas ma pensée, mais il s'agit de trouver un accord sur fond de désaccord que chaque société négocie. Mais quand même, les animaux font partie de nos vies, notre politique est une zoopolitique, alors ça s'invite à la table des négociations, et c'est nous humains qui le faisons, mais à notre façon, selon notre culture, et avec toujours des négociations. Ce que je voulais dire, en reprenant donc chacun très vite des théoriciens du contrat social, Hobbes, j'ai dit ce qu'il nous apporte sur son positivisme, c'est très important, surtout à une époque où on a tendance à avoir des discours paternalistes, hein, qui fondent la politique sur une vision du monde que d'aucuns considèrent comme générale, mais qui ne l'est pas. L'apport de Locke est fondamental, bien sûr, non seulement parce qu'il élimine la solution autoritaire de Hobbes, mais surtout parce que là, on a une réflexion très profonde sur des normes pré-politiques qui vont limiter l'avidité de chacun, le droit de chacun, le droit naturel de chacun à s'enrichir, à accueillir plus de fruits qu'il n'en a besoin pour lui-même. Est borné, vous le savez, chez Locke, par cette norme prépolitique qui est la conservation de l'espèce. Je ne peux pas, par mon avidité, priver en quantité et en qualité, je ne peux pas priver les autres hommes de l'accès en quantité et en qualité aux nourritures. Alors, hop, Locke, bon, ne parle pas des animaux, il est anthropocentriste, mais il y a vraiment cette réflexion sur l'idée d'une fondation des droits de l'homme qui n'est plus sur un agent moral individuel désincarné ou qui serait la source absolue de la légitimité. Et moi, j'essaie justement de me mettre dans cette faille qu'il y a chez Locke, qui est une promesse de compléter les droits de l'homme. Alors, chez Rousseau, on a quelque chose de fondamental, car il énonce un problème majeur pour tous ceux qui fondent le contrat social sur le consentement, donc qui veulent une réponse démocratique à ces problèmes écologiques, c'est, il faudrait vous rappeler que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peuvent être que par elles. Autrement dit, comment donner aux individus le sens de l'obligation? Faire qu'ils épousent le bien commun. Mais alors en plus, quand il y a les générations futures, les animaux, la biosphère, vous imaginez, hein. Donc comment? Et alors là, ça fait signe. Alors, vous connaissez la réponse de Rousseau, fin de la deuxième partie du contrat social, cette quatrième sorte de loi qui garde un peuple dans l'esprit de son institution, et puis la quatrième partie du contrat social, la religion civile. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas sur ce point Rousseau, mais cela fait signe vers un travail qui serait à faire, qui sera mon prochain livre, sur une éthique des vertus, c'est-à-dire une description des traits moraux permettant de souligner le plaisir qu'on peut avoir à être sobre, le plaisir à justement l'individu qui intègre en son cœur, en son sein, justement, les intérêts des autres êtres. Mais là, ça suppose donc des traits moraux qu'il serait opportun de développer. Et si vous lisez Yankelevitch, Traité des vertus, c'est absolument génial, mais ça donne pas de quoi comprendre peut-être la réflexion avec les animaux, avec les générations futures. Et moi, je crois que là, on a vraiment à faire preuve de créativité aussi sur cela. Alors, Rawls, qui est le dernier grand théoricien du contrat social qui m'intéresse, eh bien, Rawls, qui est très grand philosophe, évidemment, est très important parce qu'il prend au sérieux le fait du pluralisme politique. Nous venons d'opinions, de visions du monde différentes. Il y a ce fait du pluralisme qui interdit que certains présentent leur vision du monde et à partir de là décident de fonder la politique. Donc ça, c'est vraiment important de penser cette recherche d'accord sur fond de désaccord qui est essentielle à la démocratie. Mais et moi, d'une certaine manière, je reprends les deux principes de la justice chez Rawls, mais on n'est plus dans une théorie ressourciste, puisque la justice n'est plus seulement une question d'allocation de ressources ou de redistribution de biens premiers qui ne sont d'ailleurs pas tellement décrits dans toutes leurs mesures, puisque le droit à l'alimentation pour tout le monde n'est qu'un droit sur le papier aujourd'hui et n'est pas quelque chose qui est rendu possible par la théorie de la justice chez Rawls, parce qu'il est peut-être trop muette sur certains biens premiers. Alors donc, mais il y a surtout l'idée. Donc, il y a quand même un motif eudémoniste qui illumine de l'intérieur cet accord entre l'utilité et la justice qui est au cœur du contrat social. Alors moi, j'ai essayé donc de former les termes du problème politique. Donc, c'est vraiment imaginer une forme d'association qui protège la personne, les biens et l'intimité de chaque associé. Donc, on garde le libéralisme politique, y compris dans la forme de Mill. Hein, on sépare la morale et le droit sur les questions de mœurs pour éviter le paternalisme moral, mais, et qui encourage la convivialité et la justice conçue comme partage des nourritures. Autrement dit, quand le point de départ de l'association civile, c'est ce cogito gourmand et le cogito engendré, qui est toujours concerné dès qu'il mange par le sort qu'il impose aux autres hommes habitant loin de chez lui, aux générations futures et aux autres animaux, alors, justement, les finalités du politique ne se bornent pas seulement à orchestrer la conciliation des libertés individuelles, des intérêts, à réduire les inégalités, mais la question des principes d'irréversibilité pour les générations futures avec les déchets nucléaires, la question de l'alimentation, du droit à une alimentation qui soit aussi, qui donne du plaisir, l'organisation du travail comme problème politique, non pas détourné du sens de son activité, enfin tous ces principes de la justice comme partage à nourriture, donc qui complètent, pour ainsi dire, le libéralisme politique. Mais dans un esprit lié au libéralisme politique, c'est-à-dire fondé sur la souveraineté quand même du sujet, hein, fondé sur le fait que ce n'est pas coercitif, mais vraiment le sens de la justice change à partir du moment où on remplace le mot ressource par nourriture, à partir du moment où on fait surgir un sujet toujours relationnel et qui est débordé en amont et en aval par d'autres vies que la sienne. Alors ça, c'est évidemment normatif. Il y a, j'ai déjà dit, tout un tas de travaux à faire pour rendre possible ça. Le dernier point, et ça ne me prendra que 5 minutes, c'est le toit. J'avais dit, je finirai par ça. À quelles conditions on peut quand même arriver à avancer les conditions d'une reconstruction de la démocratie. Et je crois que là, il y a 3 volets à tenir ensemble. Il y a le volet institutionnel, c'est vraiment l'idée qu'il faut des modifications institutionnelles permettant de faire entrer les questions écologiques au cœur du politique, qui, évidemment, la représentation politique est née dans un contexte démographique, écologique, social, différent du nôtre et un peu présentiste. Et moi, évidemment, dans cette troisième chambre, j'ajoute, qui est non électif, qui a pour but de veiller à ce que dans les propositions de loi, le volet environnemental soit étudié de manière transversale, j'ajoute la question de l'amélioration de la condition animale, qui fait partie, qui n'est pas seulement mon obsession personnelle, mais qui fait partie de nos vies, hein. Et qui pourrait aussi, qui gagnerait à être travaillée de manière transversale. Et donc sortie de l'îlot éthique à laquelle la condamne parfois l'éthique animale. Donc il y a ça, mais je crois que, et puis la reconfiguration du rapport science-société-pouvoir sur des questions qui cassent un petit peu le ressort du système représentatif. Je pense néanmoins que si on en reste là, ça suffit pas. Il me semble que le deuxième volet, c'est la transformation qualitative de la démocratie. De notre démocratie qui est aujourd'hui concurrentielle, fondée sur une rhétorique plébiscitaire qui écrase avec des marchandages et des promesses, vers une démocratie plus délibérative, où le cœur de la légitimité n'est pas seulement l'élection, avec un consentement une fois pour tout, mais l'idée d'une vigilance des individus et l'exercice par les citoyens de leur autonomie politique. Et pourquoi c'est très important par rapport aux questions qui nous intéressent, qui sont des questions qui dépassent le problème de la coexistence pacifique des libertés pour envisager l'impact de nos modes de vie, de tout ça sur les générations futures? Eh bien, c'est parce que les questions écologiques, comme les questions dites de bioéthique, supposent la traduction, la formulation des positions ontologiques qui sous-tendent nos positions politiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme dans les débats sur la fiscalité ou des débats qui sont encore traduisibles en termes droite-gauche, conservatisme-progressisme. Ici, on est dans quelque chose qui dépasse souvent ces coupures et qui surtout suppose un enrichissement des débats politiques, enrichissement qui suppose une argumentation. Argumentation qui, justement, suppose aussi de faire un pas de côté, parfois, et suppose donc de traduire en un langage rationnel ce qui, parfois, s'exprime tacitement. Et donc, il y a vraiment un effort là au niveau de l'argumentation, et ça vient troisième volet. Il y a un volet lié aux représentations du pouvoir et du partage du pouvoir, c'est-à-dire que vraiment nous sommes encore habitués à un schéma vertical. Loïc Blondiot m'avait fait lire un texte magnifique, donc je ne boude pas mon plaisir, de Gambetta, comment il s'appelle, Diego Gambetta, qui est un politiste italien qui parle de machisme discursif. Alors machisme discursif, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est le fait d'avoir une parole qui écrase, d'être un tautologie, de parler de tout, d'avoir des opinions définitives sur tout. Ça s'oppose à une culture analytique qui est liée à l'argumentation, à la délibération, au fait de faire un pas de côté parfois pour effectivement négocier des choses en démocratie. Et je crois que ça, c'est vraiment ce matus discursif qui est encore prégnant chez nos représentants, mais aussi chez les intellectuels, gâche et empêche l'évolution de la démocratie concurrentielle vers une démocratie délibérative. Donc, nous avons une responsabilité à amener un style nouveau et qui est vraiment important. En conclusion, eh bien, en voie, j'ai parlé d'autonomie politique, ce qui veut dire que l'importance en pleine cosmopolitisation, en pleine globalisation, et avec l'idée du cosmopolitisme qui est non pas un fait, mais un changement d'échelle et dont parlait magnifiquement le regretté Ulrich Beck, eh bien, il y a l'idée de l'importance de l'autonomie. La responsabilité s'adresse à moi, à chacun. Incessible. Bon. Et je crois que cette référence à l'individu nous renvoie à des lumières, aux lumières. Rappelez-vous, dans le texte de Kant, les lumières sont une époque qui a son nom, sa devise et sa tâche, qui se nomme elle-même. Alors, sans doute, ce travail-là est distinct des lumières dans le fait que pour les lumières, qui sont essentiellement des philosophies de la liberté, et Kant en particulier, la nature joue le rôle de simple fondement. On n'est pas là, non. Mais l'idée quand même d'accompagner un processus en cours, dont moi j'ai cru voir trois signes avant-coureurs. Hein. Vous savez, Kant, il dit, il est un jalon d'un processus plus large que lui, mais en même temps un acteur qui essaie d'accompagner, d'orienter. Et bon, alors moi je me prends pas pour Kant, vous inquiétez pas, mais il y a l'idée quand même de cette époque dans ce travail résolument constructif, c'est-à-dire qu'on n'est plus là, on n'a plus le temps peut-être de se plaindre, il faut construire. Eh bien moi, il m'a semblé y voir trois signes avant-coureurs. Un, le fait que de plus en plus d'êtres humains intègrent dans la sphère de leur considération les animaux, même s'ils sont pas hantés comme d'autres par cette question, mais quand même, c'est l'idée aussi d'une planète finie, fragile, qui a protégé, qui s'impose. On n'est plus comme chez Hobbes, où l'homme est le prolétaire de la création et la nature une géante, et puis il faut y aller, il faut maîtriser, etc. On n'est plus comme ça. Hein. Et trois, le désir de vivre mieux, de goûter au bonheur, mais là où on le peut. Alors on le peut pas tout le temps, hein. Mais au moins dans l'alimentation. Le sentiment que beaucoup d'êtres ont d'avoir été vraiment, donc on leur a imposé des choses. Et l'idée, vraiment, donc cette réflexion, ce motif démoniste, qu'il s'agit de penser en politique mais sans paternalisme, ça c'est un défi. Donc je finirai par Paul Éluard, qui, pour montrer que c'est pas de l'angélisme, il y a derrière tout cela, dans ce travail résolument constructif, la hantise d'une destruction et aussi d'une conscience de plusieurs figures du mal, dont pour moi ce qu'on fait aux animaux est assez important. Ce petit monde meurtrier est orienté vers l'innocent, lui ôte le pain de la bouche et donne sa maison au feu, lui prend sa veste et ses souliers, lui prend son temps et ses enfants. J'ai vécu comme une ombre et pourtant j'ai su chanter le soleil entier, celui qui respire dans chaque poitrine et dans tous les yeux, la goutte de candeur qui luit après les larmes. La dernière luit de Paul Éluard, et il continuait, des hommes vont venir qui n'auront plus peur d'eux-mêmes. Merci.